Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation.
Salut Éric.
Bonjour Ronan.
Aujourd'hui, on revient sur le destin tragique de l'organisateur événementiel le plus en vogue du XVIIe siècle. Il est très souvent cité dans l'histoire de la gastronomie française, notamment pour sa mort spectaculaire. Cet homme, Éric, c'est...
François Vatel. Sa fin tragique dont tu parles, Ronan, on la connaît grâce à une lettre de Madame de Sévigné. Elle écrit les mots suivants.
C'est qu'enfin Vatel, le grand Vatel, maître d'hôtel de Monsieur le Prince, s'est poignardé.
Vatel s'est suicidé en plein service et on va rappeler pourquoi.
Oui, Vatel est entouré de nombreuses légendes, on va reprendre ensemble le fil de sa vie. Je compte sur toi Éric pour démêler le vrai du faux.
Mais essayons, même si le vrai n'est pas toujours vraiment connu.
Alors d'abord, que sait-on de lui, de ses origines, de sa formation ?
Eh bien, François Vatel est né en 1631 dans le nord de la France, en Picardie. C'est un fils de laboureur, c'est-à-dire de paysan, propriétaire de terres, donc pas complètement misérable. Et très jeune, à 25 ans, François Vatel est déjà maître d'hôtel de l'homme le plus riche du royaume de France, qui est Nicolas Fouquet, le surintendant des finances.
Contrairement à ce que l'on pense, Vatel n'a jamais cuisiné.
Vatel n'est pas cuisinier, mais il est maître d'hôtel. C'est-à-dire que c'est lui qui veille aux réserves alimentaires, qui s'occupe des approvisionnements de nourriture, qui conçoit ou valide les menus, qui surveille la préparation des repas et leurs services.
Son premier employeur de renom, tu viens de le dire, c'est donc Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV et le propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte.
Oui, près de Melun. Donc Nicolas Fouquet avait fait bâtir et aménager ce magnifique ensemble de bâtiments et de jardins. Et pour cela, il avait fait appel à l'architecte Louis Levaux, au peintre décorateur Charles Lebrun, au jardinier paysagiste André Lenôtre, trois hommes qui, quelques années plus tard, déploieront tous leurs talents à Versailles. Donc, à Vaux-le-Vicomte, François Vatel occupait les fonctions de maître d'hôtel, mais en plus, il avait la charge de contrôleur général de la bouche. Alors, ça consistait à gérer tout le personnel, les achats de bois de chauffage, de linge de maison, de fourrage pour les animaux, etc. Et également à organiser les réceptions dans tous leurs aspects, les menus, l'accueil, l'hébergement des invités, les divertissements, la mise en scène des repas, tout ça, tout ça.
Et c'est à Vaux-le-Vicomte que François Vatel rencontre le roi Soleil.
Oui, parce que c'est lui, Vatel, qui est chargé d'organiser et de superviser la grande réception du 17 août 1661. Ce jour-là, le jeune Louis XIV, il n'a que 22 ans, avait été invité à Vaux par Nicolas Fouquet. Ce dernier voulait impressionner son souverain par une fête somptueuse. Un homme de lettres va relater le caractère exceptionnel de cette fête. C'est un certain Jean de La Fontaine. Il écrit...
Il y eut un souper magnifique, une excellente comédie, un ballet fort divertissant et un feu qui ne devait rien à celui qu'on fit pour l'entrée. La délicatesse et la rareté des mets furent grandes. Le souper fini, la comédie eut son tour. On avait dressé le théâtre au bas de l'allée des sapins. Les décorations furent magnifiques et cela ne se passa pas sans musique.
Mais Fouquet était bien loin de se douter que depuis plusieurs semaines, le roi, bien poussé par Colbert, avait décidé de faire emprisonner son ministre des Finances, qui était soupçonné d'avoir détourné de l'argent en revenant au trésor royal. Et puis Fouquet avait aggravé son cas en offrant au roi Soleil une réception fastueuse, beaucoup trop fastueuse. Et elle aurait, dit-on, suscité la jalousie du monarque, qui se savait à l'époque incapable de rivaliser avec cette débauche de luxe. Trois semaines plus tard, Nicolas Fouquet sera arrêté par D'Artagnan et François Vatel, craignant d'être lui aussi jeté en prison, choisit de s'exiler à Londres le temps que les choses s'apaisent.
Il va rester quelques années en Angleterre avant d'être débauché par le prince de Condé. C'est le cousin du roi Soleil, propriétaire du château de Chantilly.
Oui, 20 ans plus tôt, ce prince du sang, donc Condé, avait pris la tête de la fronde contre Anne d'Autriche et Mazarin. Condé s'était même allié un temps avec l'ennemi espagnol et donc il avait été frappé de disgrâce royale et contraint de se retirer dans son domaine de Chantilly, à une douzaine de lieues au nord de Paris. Mais Condé souhaitait se réconcilier avec le roi Soleil pour obtenir de nouvelles fonctions et bien sûr renflouer ses caisses. Et pour cela, il décide d'offrir à Louis XIV une somptueuse réception de trois jours à Chantilly.
Et ce sera la fameuse fête d'avril 1671 par laquelle le grand Condé souhaite sceller son retour en grâce.
Oui, et dans un délai extrêmement court, à peine 2 semaines, Vatel est chargé de tout organiser, des menus aux festivités. Alors, il dort quasiment pas, tu imagines, parce que le travail est absolument colossal. Louis XIV devait venir à Chantilly accompagné de sa cour, c'est-à-dire plus de 2000 personnes qu'il fallait loger pendant 2 nuits, nourrir et amuser tout au long des 3 jours de cette grande réception. Le roi et son immense suite arrivent donc à Chantilly le 23 avril 1671 en fin d'après-midi sous un soleil radieux, mais qui est apparu comme par miracle parce qu'au cours des heures et des jours précédents, il n'avait fait que pleuvoir à verse. Alors on va pouvoir servir en plein air une collation sucrée dans un décor de végétaux et de fleurs superbement travaillé au son de la musique de Lully. Après une partie de chasse aux cerfs dans la forêt, les invités regagnent le château pour le souper. Ils prennent place autour de tables décorées de fruits, de fleurs, disposées en somptueuses pyramides, et ils se régalent de dizaines de mets, comme tu peux l'imaginer, d'un grand raffinement.
Tout se passe donc à merveille, mais le lendemain...
C'était un vendredi, c'est-à-dire un jour maigre, sans viande. L'essentiel du repas devait donc être constitué de poissons. Mais au petit matin, Vatel constate avec effroi que seule une infime partie de la marée, c'est-à-dire des poissons de mer et des coquillages qui étaient prévus pour le repas, était arrivée à Chantilly. Alors Vatel attend avec une impatience, une fébrilité extrême les autres chasse-marées, hein, c'est-à-dire les charrettes. Et là, je redonne la parole à Madame de Sévigné qui écrit
« Les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait, il croit qu'il n'y aura point d'autre marée. »
Vatel aurait alors déclaré
« Je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. »
Vatel se rend alors dans sa chambre et j'ouvre à nouveau les guillemets.
Mettant son épée contre la porte, il se l'était passé au travers du cœur. Mais ce ne fut qu'au 3e coup, car il s'en donna 2 qui n'étaient pas mortels.
Et ironie du sort, quelques instants après le suicide de Vatel, toutes les autres livraisons de poissons qui avaient été commandées parviennent à Chantilly.
Eh oui, moins d'une heure après son suicide, les poissons, les crustacés, les coquillages que Vatel n'espérait plus franchissent les grilles du domaine. Les voitures à cheval en provenance des ports de la Manche, de Boulogne-sur-Mer, de Dieppe avaient pris du retard en raison des routes défoncées par les pluies des jours précédents. J'en ai parlé tout à l'heure. Aussitôt, les autres responsables de la réception prennent le relais de Vatel, dont on vient de découvrir le corps sans vie et tout ensanglanté. Madame de Sévigné achève son récit en ces termes.
« On dîna très bien, on fit collation, on soupa, on se promena, on joua, on fut à la chasse. Tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté. »
Comme on dit dans le monde du spectacle, « The show must go on », le spectacle doit continuer. Oui, on va quand même pas casser l'ambiance et gâcher la fête pour le suicide d'un simple maître d'hôtel.
On ne manquait pas de cynisme à l'époque. Vatel s'est donc suicidé parce qu'il pensait être déshonoré.
Oui, mais tu vois, pour les commentateurs, l'honneur perdu de Vatel n'a pas toujours été jugé comme un motif suffisant pour expliquer son geste désespéré. Certains auteurs ont par exemple évoqué d'autres raisons. Au XIXe siècle, des historiens ont affirmé, mais alors sans le moindre début de preuve, que le maître d'hôtel était en proie à une profonde déception sentimentale. Il aimait éperdument une dame de la cour, mais celle-ci n'éprouvait pas les mêmes sentiments à son égard. Bon, ce qui semble bien plus probable, c'est que ce matin-là, Vatel était totalement épuisé, dépressif et terriblement anxieux. Faute de poisson, il risquait de déplaire fortement à son maître et au roi. Aujourd'hui, on dirait qu'il a fait un burn-out.
Sans transition aucune, c'est au château de Chantilly que François Vatel invente la célèbre crème montée. C'est vrai ou faux?
Disons que c'est effectivement à lui qu'on attribue souvent l'invention de la crème Chantilly. Mais bon, ça, on ne peut pas le démontrer avec des documents incontestables. En réalité, un dessert similaire, une crème sucrée fouettée à l'aide de baguettes souples de genêt, existait déjà au milieu du XVIe siècle en Italie. Et puis, en plus, l'appellation de crème chantilly, elle n'apparaît qu'au début du XIXe siècle dans un dictionnaire de gastronomie.
Merci Eric pour toutes tes explications. On termine avec notre petite tradition, l'explication d'une expression liée à la cuisine. Quand on dit c'est la fin des haricots, on veut dire que c'est la fin de tout, qu'il n'y a plus aucun espoir. Tu sais d'où vient cette expression ?
En fait, il y a plusieurs hypothèses, comme souvent. Alors, la plus ancienne, elle fait référence aux marins au long cours qui, au XVIIIe siècle, avaient défini une gestion des vivres par ordre de péremption. Alors, il fallait manger en premier, bien sûr, les animaux vivants et les produits frais, et puis les biscuits secs, les produits salés ou fumés, et enfin les jambons, et pour finir, les haricots et les autres légumes secs comme les fèves, les lentilles, les pois secs, etc. Une fois mangé les haricots, il fallait pouvoir rejoindre très rapidement une côte pour se ravitailler. Première hypothèse. Autre hypothèse, dans les internats d'autrefois, les élèves étaient nourris en fonction des ressources financières du moment dont disposait l'internat. Comme les haricots étaient une denrée bas de gamme, bon marché, eh bien en période de vache maigre, les internes étaient nourris essentiellement avec ces légumes. Et si les finances ne s'amélioraient pas, après les haricots, il n'y avait plus rien à manger pour les élèves. Troisième explication, l'expression trouverait son origine dans les jeux de société pratiqués en famille au début du XXe siècle. On ne jouait pas d'argent, mais des haricots secs. Et donc la fin des haricots signifiait la fin de la partie.
Merci beaucoup Eric pour toutes ces explications. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
À bientôt Ronan.